Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 1er février 2018, en direct de Washington, Idrissa Seydoulia
et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
Au Burkina Faso, la composition du nouveau gouvernement est connue.
Au Mali, au moins 2 soldats maliens ont été tués hier dans l'explosion d'une mine dans la région de Gao.
République démocratique du Congo, le porte-parole Lambert Mende assure que le président Kabila entend quitter le pouvoir après les élections du 23 décembre 2018.
Washington place Ismaël Haniyeh, chef du Hamas, sur la liste noire des terroristes.
Et ne manquez pas notre page sport avec le Chan 2018 au Maroc, ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, la liste du nouveau gouvernement a été rendue publique hier. Pas grand changement, contrairement aux rumeurs qui circulaient à Ouagadougou, la capitale, sur le sort du Premier ministre Paul Kaba-Tieba. Les détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Attendu depuis plusieurs jours, le remaniement ministériel a finalement eu lieu ce mercredi tard dans la soirée. Le grand chamboulement avec la nomination d'un nouveau Premier ministre n'a pas eu lieu. Paul Kaba-Tieba reste à son poste. On notera cependant le changement de poste de Simon Compaoré. Il n'est plus le ministre de la Sécurité. Il devient ministre d'État auprès du président du Faso. 9 nouveaux ministres font leur entrée dans cette équipe de 30 membres. Le ministère a problème. Celui de l'Éducation nationale a un nouveau locataire, en la personne du professeur Stanislas Ouaro. Un autre nouveau ministère a été créé, celui de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, avec comme occupant Paul Robert Tchendrebego. La nouvelle équipe gouvernementale est convoquée dès ce jeudi matin à la présidence du Faso pour une prise de contact. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Mali, au moins 2 soldats maliens ont été tués hier dans la région septentrionale de Gao. Leur véhicule a sauté sur une mine, ont indiqué des sources militaires maliennes. Le point avec Bagassi Koura.
Une mission de l'armée malienne a sauté sur une mine entre Tarkint et Bourem. 2 militaires ont été tués selon un bilan provisoire. Aussi, le maire de Tarkint, porté disparu depuis une dizaine de jours, a été enlevé par des hommes armés d'après sa famille. Samedi dernier, au moins 14 militaires maliens ont été tués dans une attaque contre leur camp à Soumpi, dans la région de Tombouctou. Une attaque suicide a coûté la vie à 4 soldats le lendemain à Menaka, dans le nord-est. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel, a revendiqué ces 2 attaques selon l'agence privée mauritanienne Al-Akhbar. La situation semble aussi se détériorer dans le centre du Mali. Le 24 janvier, 26 civils ont péri dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule à destination du marché hebdomadaire de Boni.
Et concernant toujours le djihadisme en Afrique de l'Ouest, un attentat suicide a fait 4 morts et 44 blessés hier dans un camp de personnes déplacées à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. On soupçonne le groupe islamiste Boko Haram. Quelques minutes après l'explosion, une femme kamikaze a lancé une autre attaque qui n'a toutefois pas fait de victimes.
En République démocratique du Congo, le président de la CENI déclare que les élections doivent, je cite, consacrer l'alternance au niveau suprême. Précision d'Eddie Isango.
Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante, a pris l'exemple du Ghana et d'autres pays africains pour appuyer son affirmation. Il déclarait officiellement à l'occasion la fin des opérations des recensements. Selon lui, les élections prévues fin 2018 doivent consacrer l'alternance au niveau suprême. L'expérience ghanéenne, mais aussi celle d'autres pays, seront mises à contribution pour qu'ensemble, nous puissions relever les défis qui nous attendent au 23 décembre 2018, a-t-il soutenu. Quelques jours plus tôt, le président Joseph Kabila, pressé par ses opposants de dire publiquement qu'il ne briguera pas un troisième mandat, est resté évasif. La Constitution lui interdit de se représenter pour un troisième mandat.
Selon Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, le président Kabila entend respecter la Constitution et quitter le pouvoir après les élections du 23 décembre 2018. Ce sera en seconde partie de cette édition.
RDC toujours, l'opposition et l'Église catholique, à couteau tiré avec le président Kabila, rendent aujourd'hui à Kinshasa un hommage à l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Cependant, les futurs obsèques et l'héritage politique du fondateur de l'UDPS, décédé il y a un an à Bruxelles, avivent l'interminable crise congolaise. Pour utiliser les termes de la presse locale, l'UDPS, elle limitée, a annoncé une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame ce matin à Kinshasa, et l'UDPS El Tshibala, le parti du Premier ministre Bruno Tshibala, a annoncé sa propre messe dans une autre église de Kinshasa.
Le prêtre rwandais Wenceslas Munyeshyaka, visé par la première plainte en France pour son rôle présumé dans le génocide de 1994, saura le 21 juin si la justice confirme ou non le non-lieu dont il a bénéficié. Selon l'AFP, la Cour d'appel de Paris a mis en délibéré sa décision après avoir examiné hier l'appel formé par les parties civiles contre le non-lieu rendu en octobre 2015 par les juges d'instruction en faveur du prêtre de 59 ans qui vit aujourd'hui en France.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le FBI a exprimé hier de graves préoccupations quant à la véracité d'un mémorandum rédigé par des parlementaires républicains et qui montrerait, dit-on, un parti pris contre le président Donald Trump au sein de la police fédérale, et ce en rapport avec l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Les républicains de la commission du renseignement de la Chambre des représentants ont recommandé à M. Trump de publier le document après l'avoir passé en revue. Mardi, après son discours sur l'état de l'Union, le président a dit à un élu que le rapport serait publié à 100%, ne vous inquiétez pas. Selon certains républicains, des abus de pouvoir auraient été commis pour obtenir l'autorisation de surveiller les communications de Carter Page, un conseiller de M. Trump, avec des Russes pendant la campagne électorale. Serait visé, disent leurs rédacteurs, le numéro 2 du ministère de la Justice, seul officiel habilité dans ce cas à limoger le procureur spécial Robert Mueller.
Washington a placé hier Ismaël Haniyeh, chef du Hamas, sur la liste noire des terroristes. Mais pour le mouvement islamiste palestinien, l'annonce du département d'État américain ne décourage pas la résistance contre Israël. Le point avec John Linden.
Selon le secrétaire d'État Rex Tillerson, Ismaël Haniyeh menace la stabilité au Moyen-Orient et sape le processus de paix avec Israël. Le Hamas, qui était déjà depuis 1997 sur la liste des organisations terroristes, a aussitôt déclaré que la décision des États-Unis n'affaiblirait pas sa lutte contre Israël et que toute pression sur la résistance est vouée à l'échec. Après la décision américaine reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, Ismaël Haniyeh avait estimé que toutes les lignes rouges étaient franchies. De son côté, l'autorité palestinienne refuse depuis toute médiation de Washington dans les négociations de paix avec Israël. Donald Trump, dans son discours sur l'état de l'Union mardi, a réaffirmé sa position sur cette reconnaissance. Il a brandi une nouvelle fois la menace de représailles financières et a demandé au Congrès d'adopter une loi pour garantir que l'aide étrangère américaine aille seulement aux amis de l'Amérique, pas à ses ennemis.
À noter aussi que les États-Unis ont exprimé hier leur inquiétude quant aux conséquences d'une loi controversée adoptée par le Sénat polonais sur l'Holocauste. Elle est destinée à défendre l'image du pays, mais a conduit Israël à accuser Varsovie de vouloir réécrire l'histoire et nier l'Holocauste. Pour Washington, cette loi risque d'avoir des répercussions sur les intérêts et relations stratégiques de la Pologne, y compris avec les États-Unis et Israël.
En Syrie, l'offensive de l'armée turque et de rebelles syriens contre l'enclave kurde d'Afrin dans le nord-ouest s'intensifie avec des raids aériens et de violents combats frontaliers qui provoquent des milliers de déplacés. Les blessés continuent aussi d'affluer dans les hôpitaux. Ankara ne cesse de réitérer sa détermination à poursuivre son offensive lancée le 20 janvier pour chasser de sa frontière la milice kurde des unités de protection du peuple, et ce, malgré les appels à la retenue.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
L'Algérie et Cuba ont convenu l'exportation du pétrole vers l'île en échange de médecins cubains. En 2017, Cuba a importé plus de 2 millions de barils algériens. En 2014, plus de 13 000 médecins sont allés au Venezuela pour 53 000 barils par jour de contrepartie. L'exportation de médecins constitue la première source de devises pour Cuba devant le tourisme. Ils exercent dans 62 pays, dont 24 d'Amérique latine et de la Caraïbe, 27 en Afrique subsaharienne. Cuba comptait 90 161 docteurs à fin 2016. Le Nigeria a collecté près de 37 millions de dollars au titre de la redevance de sûreté aérienne en 2017. Cette redevance a été prélevée auprès de 30 compagnies aériennes qui ont transporté plus d'1 825 000 passagers. 20 dollars sont retenus sur chaque billet d'avion pour tout passager sortant du pays. Cette redevance date de 2014 et sert à lutter contre le terrorisme et renforcer des mesures de sûreté aéroportuaire. L'Afrique du Sud a enregistré un excédent commercial de plus d'1 milliard de dollars en décembre. Ce chiffre record est le plus haut niveau depuis 27 ans. La baisse de l'importation de plusieurs catégories de biens a favorisé cette performance. La balance commerciale a connu 11 mois consécutifs d'excédent sur l'année 2017.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Maroc-Nigeria, ça sera l'affiche de la finale du CHAN 2018.
Le Maroc, pays organisateur et grand favori de cette compétition qui se qualifie dans la douleur pour la finale. Les Lions de l'Atlas pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score par El Kaabi à la 73e minute de jeu contre la Libye. Oui, mais voilà, les Chevaliers de la Méditerranée, vainqueurs du CHAN 2014, ont eu de la ressource qu'Elafa égalise en toute fin de match à la 90e minute de jeu. On joue donc les prolongations et c'est El Kaabi, encore lui, qui va inscrire un deuxième but et délivrer tout un pays. Adraf conclut pour les Marocains 3-1, le score final après ces prolongations. Et la seconde demi-finale opposait le Nigeria au Soudan à Marrakech. Et ce sont les Super Eagles qui se qualifient en battant les Soudanais 1-0. On écoute Amine Birouk qui revient sur ce match pour VOA Afrique.
Un succès qui s'est esquissé dès la 16e minute grâce à Okoye-Sokou. Pourtant, les Nigériens n'ont pas totalement maîtrisé leur sujet ce mercredi, concédant de nombreuses occasions aux Soudanais, notamment après l'expulsion d'Efaini peu avant l'heure de jeu. Toutefois, les hommes de Salisu Youssouf ont su faire le dos rond devant les assauts adverses, des assauts souvent dangereux, mais que les représentants du football d'Afrique de l'Ouest ont su juguler. Les Soudanais peuvent nourrir des regrets ce mercredi, d'autant plus qu'ils avaient semblé plus fringants au fur et à mesure que l'on avait dans ces demi-finales. Les Nigériens, quant à eux, peuvent rêver d'un nouveau sacre continental, le premier de leur histoire dans ce championnat d'Afrique des Nations. Mais il faudra pour cela proposer une prestation plus convaincante dimanche devant les Lions de l'Atlas. Depuis Casablanca au Maroc, Amine Birouk pour VO Afrique.
La Mauritanie n'a plus d'entraîneur pour ses joueurs locaux.
Oui, Corentin Martins, qui a été démis hier de son poste de sélectionneur de l'équipe de Mauritanie composée des joueurs locaux. Et ce, bien évidemment, après les 3 défaites enregistrées au CHAN. Mais le Français conserve la tête de l'équipe nationale. C'est ce qu'annonce la Fédération Mauritanienne de football, qui explique ce maintien par le besoin de stabilité dans la course aux éliminatoires de la CAN 2019. Avec notamment une victoire à l'extérieur face au Botswana.
Eto file, lui, en Turquie.
Et oui, l'ex-international camerounais s'est engagé avec le club turc de Konyaspor au lendemain de la résiliation de son contrat avec une autre équipe turque, Antalyaspor. Samuel Eto, 36 ans, a signé un contrat pour 2 saisons et demie avec son nouveau club. L'attaquant camerounais avait rejoint la Turquie et Antalyaspor en juin 2015, après avoir évolué notamment au FC Barcelone, à l'Inter de Milan, à Chelsea ou encore à l'Ancy Makhachkala. Allez Drissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Indiana Pacers bat Memphis Grizzlies 105-101. Los Angeles Lakers battu par Orlando Magic 127-105. Atlanta Hawks succombe à Charlotte Hornets 110-123. Défaite de Philadelphia Sixers face aux Brooklyn Nets 108-116. Victoire de justesse des Cleveland Cavaliers sur le Miami Heat 91-89. Boston Celtics et New York Knicks 103-73.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. RDC, dans une interview dans les studios de VOA Afrique, ici à Washington, Lambert Mende assure que le président Joseph Kabila entend respecter la constitution congolaise et quitter le pouvoir après les élections du 23 décembre 2018. Le porte-parole du gouvernement congolais annonce aussi que Kabila désignera son successeur au sein de la majorité présidentielle d'ici au mois de juillet prochain. Nicolas Pino a notamment demandé à Lambert Mende quel avait été le sens de sa rencontre à Washington avec Donald Yamamoto, secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Eh bien, nous avons échangé des informations sur l'état de la situation sécuritaire, sur la MONUSCO. Vous savez que les États-Unis sont premiers contributeurs de la MONUSCO et sur les élections, les préparatifs des élections, je lui ai dit que nous étions sur la ligne droite, que nous sommes en train de terminer aujourd'hui même la phase qui est essentielle d'enregistrement des électeurs dans les Kasaï où nous avons eu quelques retards, mais qu'avec cette fin de la phase d'enregistrement des électeurs, nous sommes sur la ligne droite pour respecter le calendrier tel qu'il a été établi par la commission électorale.
Donc c'est sûr, la RDC votera le 23 décembre 2018 ?
Affirmatif. Le 23 décembre, nous avons les trois élections en une séquence.
Alors évidemment, il y a eu cette conférence de presse du président Kabila. Le président n'a pas répondu clairement concernant évidemment sa volonté de respecter la Constitution et de se représenter ou non. Qu'en est-il ?
Oh que si, le président a répondu clairement lorsqu'il a demandé qu'on puisse lire dans la Constitution ce que il comptait pouvoir faire. En aucun cas, le président ne va violer la Constitution. En aucun cas, nous ne sommes en procédure de modification de la Constitution qui passe par un référendum. Je ne sais pas si on a une idée de la procédure lourde pour un référendum. Nous sommes dans une procédure de préparatif d'élection.
Donc vous confirmez que le président Kabila ne se représentera pas au scrutin de décembre 2018 ?
Tout se fera conformément à la Constitution et le président respectera la Constitution et celle-ci ne prévoit pas que le président puisse se représenter pour une troisième fois consécutive.
S'il ne se présente pas conformément à la Constitution, qui sera son dauphin ?
Eh bien ça regarde le président, ça regarde notre famille politique. Il a certainement une petite idée là-dessus. Nous sommes en train de nous concerter et lorsque la commission électorale va ouvrir la liste de candidatures, nous ferons connaître à l'opinion et à la commission électorale qui sera notre candidat, mais le moment n'est pas encore venu.
Autre point important de cette conférence de presse, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Comment vous qualifieriez aujourd'hui les relations, notamment avec l'Église catholique en République démocratique du Congo ?
Je voudrais d'abord dire que nous n'avons pas de crise avec l'Église catholique. Nous avons un problème avec quelques membres du clergé de l'Église catholique qui se mêlent trop de politiques politiciennes et qui opposent les Congolais entre eux. Ce sont des citoyens congolais. Ils peuvent bien agir, ils peuvent mal agir. Et lorsqu'ils agissent bien, nous le leur disons, nous les félicitons. Lorsqu'ils agissent mal, comme ceux qui veulent opposer les Congolais entre eux, nous le leur disons. C'est le cas maintenant à Kinshasa avec ces membres du clergé qui essayent d'opposer les Congolais entre eux. C'est une mauvaise chose et nous le disons clairement.
C'était Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Une interview à retrouver sur notre site voafrique.com.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Tchad, la grève générale et illimitée des fonctionnaires entre dans sa troisième journée ce jeudi. Selon les organisateurs, le mouvement est largement suivi. Les autorités avaient annoncé une baisse des salaires, puis ont renoncé à la mesure. Mais à la fin de ce mois de janvier, les fonctionnaires ont découvert avec surprise et colère la baisse de leur salaire. Idriss Fall a joint à N'Djamena Younous Mahadjir, président de l'Union des syndicats du Tchad.
Non, c'est pas un recul, c'est une stratégie tout simplement. Il avait essayé de nous toucher un peu pour nous dire qu'il y a un abattement de salaire, chose qui n'était même pas dans le budget, mais c'était une manière tout simplement de venir à une autre forme d'abattement de salaire par l'augmentation des impôts trois fois de plus. À l'époque, c'était 10,5% d'impôts qu'on payait. Maintenant, ils l'ont donc augmenté à 30%. Également sur tous nos revenus, même toutes nos indemnités. Ça fait que tout le monde a eu une baisse de salaire d'environ du tiers. Et là, nous n'accepterons pas du tout. Mais les travailleurs ne sont pas du tout d'accord. Ils sont même partis à grève avant qu'on lance l'action totalement pour certains. Donc nous pensons que ce qu'on a lancé, c'est la volonté des travailleurs qui sont excédés par la manière dont le gouvernement est en train de vouloir le mettre dans une situation de pauvreté totale. Alors qu'on sait bien que la crise est une invention totale du gouvernement et du président de la République, qui ont pillé tout l'argent du pays et qui sont retrouvés avec plus d'argent au niveau du Tchad, parce que l'argent est parti dans les poches des individus, dans les comptes des paradis fiscaux, etc. Et nous ne pouvons pas du tout accepter, nous, que c'est nous qui payons ce gâchis.
Il y a aussi une augmentation du prix du carburant.
L'augmentation du prix du carburant, jusqu'à maintenant, c'est là. Après la grève des transporteurs qui sont affiliés à nous, nous avons constaté que jusqu'à preuve du contraire, bien que le gouvernement a dit qu'il allait baisser jusqu'à là, il n'y a pas encore la baisse du carburant, il l'a augmenté. Et il y a d'autres éléments plus graves encore qui sont là. Le gouvernement fait des choses telles que les Tchadiens tout entiers sont énervés et ne peuvent plus supporter cette manière de la gouvernance.
On a parlé d'une centaine d'arrestations. Est-ce que les personnes qui étaient interpellées ont été relâchées?
Bon, une partie, mais il y a encore certains qui sont en prison. Les organisations des droits de l'homme sont en train de suivre ça.
C'était Younous Mahadjir, président de l'Union des syndicats du Tchad.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
En République centrafricaine, des groupes armés qui prétendent assurer la sécurité des populations et leurs biens dans le quartier kilomètre 5 de Bangui perturbent la tranquillité des habitants. Les commerçants du PK5 avaient financé ces groupes d'autodéfense pour protéger le quartier, mais ces derniers ont laissé la place à d'autres bandes dites désorganisées. Yacouba Ouedraogo a joint Youssouf Djibril, le président de l'association des commerçants du quartier kilomètre 5.
Il y en a qui ont laissé leurs armes et puis ils ont rentré dans le vis-à-vis. Il y en a qui ont parti à la DDCVR. Mais le reste là, moi je crois qu'ils ne sont pas des groupes.
Oui, vous dites que ce ne sont pas des groupes d'autodéfense. Qui sont-ils?
L'autodéfense va défendre la population. Il y a quelqu'un qui se détient les armes et ils sont brûlés même tout le marché. Si tu même parles, même c'est des problèmes. Si tu intervenais, c'est des problèmes. On te mélange un système. Voilà comment pays dans le état. Sans autodéfense à défendre la population, nous n'avons pas de secours, ni côté depuis l'intervention, ni côté du gouvernement. Depuis des années qu'on vivait comme ça.
Est-ce que vous connaissez leur identité? Qui sont-ils?
La majorité, c'est des centrafricains. Il y en a qui sont nés en province, il y en a qui sont nés ici.
Qu'est-ce qu'ils font exactement dans les quartiers? Comment ils persécutent la population?
Ils ont leur groupe, c'est-à-dire ils ont leur fonction, chacun ils ont leur base. C'est pour ça que l'enfant, parce qu'on a demandé le moment, des fois on demande tous les bases. Quelqu'un qui est désespéré, qui n'a pas de travail, certains bandits, il va commettre ses actes, après il va regagner au base, et puis le base va les défendre. Par exemple, le groupe, ils ont venu brûler les machines. Ils ont regagné les bases, ils vont aller les bases, ça les défendre toujours. La population peut être prise en otage. La population n'a pas la force, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous, maintenant, on s'intervient dans les ondes, on s'intervient, vous, nos vies maintenant, c'est en danger. Ils nous menacent, on va vous enlever, on va vous tuer, mais nous, on ne peut pas baisser les bras, nous sommes les fils de ce pays, on peut s'amuser à tout, on peut pas s'amuser à notre pays.
Qu'est-ce que ces groupes armés-là font dans les quartiers exactement? Est-ce qu'ils prélèvent des impôts? Est-ce qu'ils prélèvent des soi-disant taxes? Qu'est-ce qu'ils font aux populations?
Non, l'histoire de l'impôt, l'histoire des taxes, non, ils ne faisant pas ça. Là, il faut que les gens n'aient même pas d'amalgame. C'est-à-dire, parmi les autres de France, là, il y en a, c'est des sentinelles. Il y en a qui gardaient les marchés, le fin du mois, ils venaient, ils prenaient cet argent. Parce qu'ils vivent de ça. Ça, c'était un. De deux, à un moment donné, on a interdit, on dit que nous, on ne voit rien de nous. Il ne faut pas casser des magasins. La nuit, on casse des 2-3 magasins. La nuit, on casse 2-3 magasins. Mais c'est des pressions. Donc, nous sommes obligés. Donc, on donne. Parce que quand ils ne donnent pas, on va casser ta magasin la nuit.
Combien vous donnez?
Il y en a qui prennent 5 000, il y en a qui prennent 2 000, il y en a qui prennent 3 000, ça dépend.
À quelle périodicité? C'est par mois, c'est par semaine ou quoi?
Non, chaque mois.
Il y a la MINUSCA, il y a les forces de sécurité centrafricaines. Ces forces-là ne patrouillent pas dans le quartier kilomètre 5?
Non. Les forces de défense et de la sécurité, ils ne travaillent plus. Mais si je leur ai assis le ministère de la Défense, ils n'ont pas donné de l'autorisation, ils ne vont pas s'intervenir. Maintenant, là, c'est la ministère qui est en train de garantir la sécurité. Ils sont en train de faire des patrouilles. Donc, nous voulons aussi restaurer ça de l'autorité de l'État. Nous n'avons pas de la police, ni de la gendarmerie. Mais pourquoi on ouvre la frontière, c'est de qu'on aura la police, la gendarmerie, et la ministère, et le SACA, comme ça, pour que vraiment ils sécurisent cette population-là.
C'était de Bangui, en République centrafricaine, Youssouf Djibril, président de l'association des commerçants du quartier Kilomètre 5.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Enfin, la force mixte multinationale qui combat Boko Haram dans la région du lac Tchad continue de libérer des otages. Mais les personnes libérées des griffes de ce groupe islamiste nigérian n'ont pas encore livré leur dernière bataille. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Zamaï, dans le nord du Cameroun, repris ici par Abdourahman Dia.
Quatre jeeps de la force multinationale viennent d'arriver à Zamaï, un village dans le nord du Cameroun, frontalier avec le Nigeria. 16 personnes qui étaient otages de Boko Haram sont dans les véhicules, dont Lamine Mahmoudou.
Les gens de Boko Haram sont venus à Bouzavreket pour nous ramener ça au Nigeria, à Tchénini. On a fait 2 ans là-bas. On souffre seulement. On ne donne pas nous à manger. Il n'y a pas l'argent. Nous sommes très sales. Il n'y a pas de l'eau même. L'eau même, on boit ça pour le marigot. Le maladie même, c'est quantité de quantité de maladie. Beaucoup de gens, les maladies sont tuées. Si tu es parti là-bas, même si un païen s'est obligé de prier, si tu ne pries pas, on va te tuer là-bas.
Âgé de 39 ans, Mahmoudou a été libéré le 26 janvier pendant une opération menée par l'armée camerounaise. Le groupe duquel il faisait partie rejoint des centaines d'anciens otages qui se trouvent dans 2 camps à Zamaï. Astafou Amadou a réussi à s'échapper d'un camp de Boko Haram en même temps qu'une trentaine d'autres femmes.
On ne vient pas dans notre maison, c'est seulement sur la route. Quand on t'est trouvé sur la route, là, on t'est prêt. On a trouvé la gale là-bas, la maladie des gales, parce qu'il n'y a pas l'eau à boire et tu te laves, il n'y a pas. C'est ça la souffrance. En même nuit, on est venu ici à Mouzogo. On fait 2 jours là-bas, aux routes, pour arriver à Mouzogo.
Les ex-otages veulent rentrer dans leur village, mais un responsable du gouvernement camerounais dans la région, Julien Martial Assé, se veut prudent.
On les appelle dans notre jargon les présumés ex-otages de Boko Haram. Nous avons mis ces personnes en confiance au regard de la résurgence de l'insécurité qui sévissait déjà dans notre arrondissement. Nous avons constaté que plus ils étaient ici, plus nous étions la cible de la secte. Et il nous a été instruit de conduire ces personnes à l'intérieur du pays plutôt que de les laisser ici à la frontière.
Le nombre exact d'hommes, de femmes et d'enfants enlevés par Boko Haram depuis le début de l'insurrection en 2009 n'est pas connu, mais il pourrait être des milliers. Une offensive des forces régionales en 2015 a permis de récupérer de larges portions du territoire qui était sous le contrôle du groupe djihadiste. Dans l'extrême nord du Cameroun, la crainte des attentats suicides est réelle. Mais cela n'empêche pas l'élan de solidarité envers les personnes fuyant les atrocités de Boko Haram. Ibrahim Hamawa est un chef coutumier à Zamaï.
S'ils seront là jusqu'à la saison pluvieuse, nous allons leur préparer des champs qu'ils vont travailler comme tous les autres, les premiers venants.
La localité de Zamaï continue d'accueillir d'anciens otages. En décembre, 400 d'entre eux étaient dans les camps de Zamaï et un mois plus tard, le chiffre a grossi à 600 au moins.
Bonjour à tous, c'est Kabadou avec vous et je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel dans votre émission hebdomadaire Washington Forum. Le rideau est tombé lundi sur le 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président rwandais Paul Kagame succède au Guinéen Alpha Condé à la présidence tournante de l'organisation panafricaine. Parmi ses objectifs, taxer certains produits et créer une zone de libre circulation. Quel avenir pour le projet de réforme porté par le dirigeant rwandais. Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Ekiabadou et ses invités.
Le monde aujourd'hui. aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.